Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, la joie après les larmes.
Le sujet de notre réflexion est vous dire qu'il existe un bonheur après le malheur. Je voudrais également ajouter à cela qu'il existe également la lumière après l'obscurité, qu'il y a forcément la liberté après la captivité ou la prison. Et je vais m'expliquer sur tout cela, la santé après la maladie et la joie après les larmes. Alors c'est tout un programme. Et je vous propose que nous fassions une première lecture qui va se situer dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Alors, Marc, chapitre 5. Et au verset 25. Voilà, c'est un récit bien connu des évangiles, mais qui illustre ce que je viens de dire. C'est vrai. La santé après la maladie, après les larmes, et bien la joie. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Voilà pour notre première référence. Nous allons maintenant nous reporter dans le livre des psaumes, livre des psaumes, le psaume 126. Le psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Voilà pour ce que nous allons évoquer ce matin, ce soir plutôt. Je n'ai pas vu le temps passer. Revenons d'abord à Marc. Je vais éviter de me situer quand même dans le temps. Il nous est simplement rappelé le fait de cette femme qui est une femme souffrante et particulièrement handicapée dans son existence, puisqu'elle nous a dit qu'elle souffrait depuis 12 ans. Ce qui montre bien qu'il y a certaines afflictions dans la vie des hommes, des gens, qui ne sont pas tout simplement passagère, mais qui dure dans le temps. Alors c'est vrai, je le dis, je le rappelle, lorsque nous sommes parfois confrontés avec quelques douleurs ou quelques souffrances et que ça dure quelques heures, quelques jours, c'est très long. Mais lorsque vous êtes frappé dans votre corps d'une manière ou d'une autre, ou peut-être au niveau d'un déséquilibre dans votre vie intérieure. Je pense aux gens qui font de la dépression, hein, qui souffrent. Alors, ce n'est pas la même douleur, mais c'est quelque chose qui est aussi très difficile à supporter et que cela eh bien, traîne sur des semaines, sur des mois. C'est quelque chose vraiment de particulièrement pénible. Et on peut comprendre, on peut peut-être imaginer ce qu'a pu être la vie pendant ces 12 ans pour cette femme. Hein, cette perte de sang, cette hémorragie en permanence, et qui devait véritablement eh bien, l'handicaper, parce qu'il n'y avait pas seulement un problème physique, mais sur le plan psychologique, surtout dans le monde des Juifs, hein, il y avait ce genre de maladie était regardé comme quelque chose d'impur. Alors, cela venait certainement augmenter probablement sa souffrance et sa douleur, et il nous est dit simplement que, après ce temps, dans tout ce temps plutôt, elle avait beaucoup souffert. Beaucoup souffert d'une manière ou d'une autre. Et non seulement à cause de sa maladie, mais elle avait cherché désespérément à trouver une solution, ce qui est tout à fait normal et naturel. Parce qu'elle ne voulait pas rester comme ça se comprend. Quand on est malade, on cherche à la guérison, on cherche à recouvrer la santé. On fait beaucoup de choses hein, pour cela. On est prêt à dépenser beaucoup d'argent, naturellement, si quelqu'un peut parvenir à nous redonner eh bien, notre équilibre de vie. Et cette souffrance dont il est parlé dans ce verset suivant, c'est qu'elle avait souffert entre les mains des hommes, entre les mains des médecins. Je ne sais pas ce que pouvait consister la médecine dans un tel cas à l'époque, mais toujours est-il qu'elle en était ressortie probablement désabusée, encore plus malheureuse, plus malade, vraisemblablement, et par surcroît dans cette situation, elle s'était tournée de droite et de gauche, et là, de droite et de gauche, elle avait, on pourrait dire, vainement, sans résultat, dilapidé peut-être le peu d'argent dont elle disposait. Et nous voyons que les choses sont dites de cette manière pour nous montrer tout ce qu'il pouvait y avoir de terrible dans sa situation. Imaginez, hein, je le répète, 12 années de maladie. Et peut-être au terme de ce temps qui passe, qui vous mine, qui vous prend votre vie, qui vous vole finalement votre vie, votre énergie, parce que je pense que ça devait certainement être suivi d'une grande faiblesse, d'une grande fatigue par moment. Et nous pouvons donc comprendre cette femme hein, se tournant de droite et de gauche, ayant dépensé tout son argent, avec aucun soulagement. C'est dramatique. Et on est dans une époque reculée de l'histoire des hommes. Mais aujourd'hui, je pense qu'un tel cas, dans un domaine ou dans un autre, pourrait être consigné tout à nouveau si l'Évangile était réécrit. On pourrait dire, hein, d'un tel ou d'une telle, eh bien voilà, ça fait des années que cette personne souffre. Et pourtant, elle a multiplié les rendez-vous chez les médecins, chez les spécialistes, peut-être diverses opérations ont été effectuées, et puis rien, aucun résultat. J'ai connu un ami qui s'était fait opérer une première fois, c'était au niveau de la vessie, et l'opération a été ratée. Et il a eu après toute une suite d'opérations. Et à chaque opération, c'était encore une complication supplémentaire. Alors, quelquefois, il me téléphone de temps en temps en disant « Mais c'est toujours la même situation, ça fait 7 ans. » Et la vie n'est plus du tout la même quand on est comme ça. Hein, c'est un véritable problème existentiel. Alors, au bout de 12 ans, quel pouvait être l'état d'esprit de cette femme? On peut peut-être hein, le deviner. En disant, ben, c'est fini, je ne trouverai jamais de solution. Comme cet homme qui était paralysé depuis 38 ans, vous savez, dans l'évangile de Jean, hein, paralysé, se tenant à la piscine de Bethesda et se trouvant toujours derrière les autres, en quelque sorte. Et on peut peut-être penser à ce moment-là qu'il y a comme une usure à l'intérieur, comme une érosion, finalement, de notre capacité de croire et de croire encore, d'espérer encore, puisque rien ne se passe. Et c'est ça, hein, ce qui est terrible, c'est quand rien ne se passe. quand il y a encore quelques frémissements, quand il y a encore quelques espérances, quelques nouvelles qui peuvent relever, eh bien, notre espoir, mais quand il n'y a rien du tout. Alors, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais le récit nous dit qu'elle était allée plutôt en empirant. C'est-à-dire que ça ne s'est pas arrangé. Et c'est vrai que ça ne s'arrange pas quand on est malade, quand on vieillit. Il semblerait que la jeunesse a des facultés, c'est normal, des possibilités que peut-être nous perdons après un certain âge. Et c'était certainement ce qui a dû se passer. Elle avait été en empirant. Jusqu'au moment, on pourrait dire que, jusqu'au moment où, eh bien, il y a eu une lumière dans la vie de cette femme. Après ces 12 années d'obscurité, de ténèbres, de tunnels, de sombres tunnels, il y a eu une lumière qui est apparue. Et cette lumière, c'est tout simplement ce témoignage qui nous est rendu, ayant entendu parler de Jésus. Heureux ceux qui entendent parler de Jésus, heureux ceux qui entendent le message de l'évangile de la bonne nouvelle. Parce que ça peut tout changer. Voir que nous sommes dans un monde aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens pour la plupart des gens. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des malheureux et des malheureuses. Il y en a plein le monde qui traînent leur misère, qui traînent leur souffrance. Il y en a plein autour de nous. Ayant entendu parler de Jésus, alors elle a fait une chose. Elle est venue dans la foule, derrière Jésus, et elle a touché son vêtement. Ça, c'est une belle expérience à faire. Elle n'a pas crié comme d'autres. Elle n'a pas manifesté je ne sais quoi pour attirer l'attention comme Bartimée, par exemple. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Elle n'a rien dit. Elle a simplement tendu la main. Elle a touché le vêtement avec une conviction au plus profond d'elle-même, en se disant ceci, qui est la caractéristique, qui est la preuve de la foi de cette femme: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Il n'y a aucune hésitation chez elle. Ça, c'était la lumière qui apparaissait dans sa vie. C'était la liberté après la captivité. Être enfin libéré de son mal. C'est la santé après la maladie. Si simplement je peux toucher, si simplement je peux me frayer un chemin, si simplement on veut bien me faire place pour que je puisse atteindre Jésus. Vous savez que Jésus est toujours atteignable. Il est toujours disponible. Même 2000 ans après cette histoire, où le trouve-t-on? Tout simplement dans la parole, dans la Bible. Un jour, un des premiers disciples a posé la question à Jésus: où habites-tu? C'est dans l'évangile de Jean. C'est une bonne question. Et aujourd'hui, cette question, on peut y répondre facilement. C'est dans sa parole. Et cette parole qui pourrait ressembler à toutes les autres paroles de tous les livres de la terre, celle-ci, à l'exception, elle fait exception sur toutes les autres, c'est qu'elle est vivante. Elle est puissante, elle a l'autorité divine. Alors, où habites-tu? Eh bien, nous le trouvons. Cette femme a trouvé Jésus. Et elle se disait, avec cette persuasion, cette certitude, cette conviction intérieure: si simplement je peux toucher son vêtement, alors je serai guérie. Elle ne passe pas par une phase de doute en disant: mais peut-être, si, sait-on jamais. Non, je serai guérie. Elle l'affirme. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et ça, c'est l'expérience qu'elle a faite. On pourrait dire que, et nous allons prolonger dans le deuxième récit que nous avons fait, c'est la joie après les larmes. Elle a senti immédiatement qu'il s'était passé quelque chose, que son mal avait disparu. Le mal dont elle souffrait depuis tant d'années était désormais remplacé par le bien ressenti. C'est-à-dire que la guérison. Je vais aller plus loin maintenant, nous allons passer au deuxième texte. Vous vous souvenez que petit à petit, au fil des années, la santé, la vie se retiraient du corps de cette femme. Et peut-être qu'il y a des hommes et des femmes qui sentent imperceptiblement la vie se retirer. Ah oui. Vous savez, quand on perd ses forces, quand on a une maladie ou une autre, lorsque on est affligé de je ne sais quelle infirmité, et que l'on perd ses forces petit à petit, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Parce qu'il y a toujours une réaction, parce qu'on sait bien ce qu'on était avant, et on n'est plus. On ne peut plus être comme avant. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est comme de l'eau qui passe à travers les doigts, on ne peut pas le retenir, cette vie qui se retire. Et cette femme sentait bien qu'il y avait quelque chose qui disparaissait. Et au fur et à mesure, le temps passant, eh bien, il y avait toujours de moins en moins de force. Avec moins de force, il y avait moins d'espoir. Elle se renfermait dans cette prison de la maladie, de la souffrance. Alors, cette vie qui se retire peu à peu pourrait se décliner sous cette manière, cette souffrance d'abord. Ensuite, le temps de l'épreuve, on en a parlé, et puis l'espérance. Et je voudrais maintenant souligner le côté positif de notre première lecture. On a vu comment les choses se sont passées. Elle a touché Jésus. Aussitôt, elle était guérie. Et voyons un peu ce que nous dit ces quelques versets dans le psaume 126. Il nous est simplement dit dans cette première phrase, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Je crois que ce jour-là où la femme a entendu parler de Jésus, qu'aussitôt elle s'est précipitée pour toucher Jésus, et quand elle a ressenti le bien, le mal disparaître de sa vie, elle était comme dans un rêve. N'avons-nous pas fait cette expérience après une manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, soit à travers une guérison, soit à travers une délivrance psychologique, lorsque nous sommes malades dans notre âme, lorsque nous sommes soulagés d'un fardeau, après avoir souffert longtemps, après avoir souffert durement, nous sommes comme dans un rêve parce que, à ce moment-là, le mal est absent. C'est un peu l'image de, je ne vais pas faire d'histoire, mais c'est ce que les Israélites vivaient après avoir été en captivité pendant des décennies et des décennies dans ce pays de servitude qui était Babylone. Et le jour où Dieu les a libérés, ils étaient comme dans un rêve. Dans toutes les grandes libérations, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient nationales, on l'a vu à la libération en 1944, quand notre pays a été libéré, les gens étaient comme dans un rêve. Après ces ténèbres, après cette souffrance, après toutes ces privations, l'ennemi n'était plus là. Le mal n'était plus là, la mort n'était plus là, ils étaient comme dans un rêve. Eh bien, c'est ce que nous ressentons. C'est certainement ce que cette femme à la perte de sang a ressenti dans ce moment-là. Elle était comme dans un rêve. Et il nous a bien dit, quand l'Éternel ramena les captifs, et nous sommes tous captifs de quelque chose d'une façon ou d'une autre, et Dieu nous ramène. Mais il nous ramène à la santé, il nous ramène au bonheur, il nous ramène à la lumière, il nous ramène à la vie. Il nous ramène à la liberté. Et c'est lui qui le fait, quand l'Éternel. Ce n'était pas le mérite de cette femme, ce n'était pas le mérite d'Israël, et on connaît les circonstances, il n'avait aucun mérite d'Israël. Mais il l'exprime, nous étions finalement comme si nous étions là dans un monde tout autre, mais un monde heureux. Et c'est vrai que Dieu veut nous faire toucher cette grâce. Il veut nous faire toucher combien il est bon. Dans le psaume 34, il est dit « Mais goûtez et voyez combien Dieu est bon. » Et vous savez, on n'apprécie jamais autant la bonté de Dieu lorsqu'on a été dans l'épreuve, lorsqu'on était dans la souffrance et dans la douleur, et qu'on n'a pas trouvé de solution, que l'on traîne comme cela d'année en année. Je pense à Anne, vous savez. la mère ou la future mère du prophète Samuel, qu'il a été humilié, était mortifié, et elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle voulait avoir un enfant, elle était stérile, jusqu'au jour où elle a reçu une parole de Dieu, et là, pour elle, tout s'est ensoleillé, on pourrait dire. Eh bien, c'est la même chose pour nos vies. Je crois que l'Évangile a cette puissance d'ensoleiller la vie des hommes qui sont dans le gris, qui sont dans la médiocrité, qui sont dans le terne. Et ce texte est certainement très admirable parce que c'est Dieu qui ramène les captifs. C'est lui qui libère les captifs, comme dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Les captifs à quelque niveau que ce soit. » Alors, lorsqu'on découvre cela, moi je sais que quand j'ai entendu l'Évangile pour les premières fois, j'ai vécu dans une période, c'était comme un rêve. Je m'en souviens encore, hein, ça fait 40 ans. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Tout était merveilleux, tout était beau. Je sortais des ténèbres, je sortais de prison, entre guillemets. Hein. Je sortais de l'obscurité. Et là, tout était beau autour de moi. Parce que le Seigneur avait rempli mon cœur de cette vision, de ce regard qui était tout neuf. J'ai la même chose aujourd'hui. Mais le temps vous a appris aussi bien d'autres choses. C'est peut-être plus modéré naturellement, mais je garde tout cela parce que c'est une force pour affronter encore quelquefois les chemins difficiles, de s'en souvenir, comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Alors je ne sais pas si cette femme a crié. Elle a avoué qu'elle avait touché le bord du vêtement de Jésus. Elle l'a avoué. Hein. C'est à la suite, vous pourrez relire. Mais il y en a qui ont crié. Hein. Moi, Bartimée, il a dû crier. Et puis, le boiteux, à la porte du temple, il a crié lui aussi, à un tel point que les gens étaient complètement étonnés en disant « Mais tais-toi, parce qu'on ne crie pas dans un temple. » Mais il avait raison de crier, d'adorer Dieu. Parce que finalement, c'était l'expression de son bonheur, c'était l'expression d'une vie nouvelle. Il était lui aussi dans un rêve. Parce que Dieu l'avait touché. Et notre langue était remplie de chants d'allégresse. Il y a une des caractéristiques tout à fait propres aux chrétiens, à ceux qui découvrent Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre, à la suite d'une expérience, c'est que nous avons envie de chanter après. Nous chantons d'allégresse, nous chantons de joie. Et on devrait toujours avoir cette même fraîcheur lorsque nous chantons les cantiques, comme ce soir par exemple. Vous avez remarqué, je ne me suis pas trompé, hein. C'est bien ce soir. Alors notre bouche était remplie de chants, de cris d'allégresse. Un cri, c'est quelque chose. Ça exprime naturellement quelque chose de très fort. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. C'est le témoignage de l'extérieur. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ, non pas parce que nous savons les choses, mais parce que non seulement nous les savons, mais parce que nous les avons vécues. Nous en avons fait l'expérience. Et sur la terre entière, du temps de cet épisode de la vie, de l'histoire d'Israël, les gens disaient, mais c'est un miracle que cette nation, qui était une nation esclave, depuis tant et tant d'années, sous la férule de cet empire de Babylone, comment se fait-il qu'ils reviennent maintenant? Eux qui avaient déjà fait aussi 400 et quelques années en Égypte, étaient revenus. Et puis ça se reproduit là dans notre texte. Oui, revenir. C'est quelque chose de formidable, revenir. Revenir à Dieu. Revenir à lui. C'est lui-même qui nous fait revenir à nous-mêmes aussi. Et ce retour à nous-mêmes, ça ne porte qu'un nom, ça s'appelle la repentance. Avant, nous étions en dehors de nous-mêmes. Mais là, c'est la réalité. Et ce n'est pas pour nous juger, c'est précisément le contraire. Ce fils qui revient au Père, dans Luc chapitre 15. On connaît l'histoire naturellement. Alors on disait parmi les nations, le monde entier va le savoir. Dieu a fait pour eux des grandes merveilles, des choses, des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alors nous sommes directement les bénéficiaires et nous voulons le dire aussi autour de nous. Je ne sais pas quelle était la vie de cette femme dont nous parlions tout à l'heure avec cette épouvantable hémorragie, mais elle a dû dire, moi je suis convaincue, eh bien que Dieu que Jésus-Christ, non seulement il m'a guéri, mais il peut vous guérir tous. Elle a été peut-être un témoin exceptionnel dans son temps, peut-être auprès de toutes les femmes qui souffraient peut-être de ce problème, en disant, mais vous pouvez y aller, le Seigneur est capable de vous guérir. C'est comme Bartimée, c'est comme Zachée, il a dû faire de la publicité, lui Zachée, dans son milieu de publicain, ou Matthieu, il a fait pour moi. Et ça, ça donne une force considérable à notre témoignage. C'est que nous pouvons être chrétiens de tradition, nous pouvons être chrétiens d'adhésion, mais être chrétiens de conviction, avec à la base une expérience, ça change tout au tout. D'ailleurs, dans l'église première, eh bien, c'était des gens qui pouvaient dire, mais moi j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Il est venu vers moi, il a fait telle et telle et telle chose. Il m'a délivré. Il a enlevé le fardeau qui était dans mon cœur. Il m'a purifié. Il m'a donné maintenant la vraie vie. Et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs. Ça, c'est la prière pour aujourd'hui. Seigneur, tous ceux et celles qui entendent ta parole ce soir, ceux et celles qui vont l'entendre d'une manière ou d'une autre, alors nous te prions, ramène tes captifs. Et que de ces captifs, tu en fasses des hommes libres, des gens dont les chaînes, dont les fers vont tomber et vont pouvoir vivre. Vous savez, avant d'avoir connu la vie avec Jésus, on ne sait pas ce que c'est que la vie. Il y a quand même une grande différence entre exister et vivre. Vivre, c'est autre chose. Alors, tu ramènes nos captifs comme semblables. Tu fais comme, Seigneur, des ruisseaux dans le midi. Alors, il y a quelque chose tout à fait semblable, tout à fait significatif. C'est que le midi en Orient, c'est un lieu sec, désertique, mort, sans vie. Mais là, la prière s'oriente dans une direction particulière pour véritablement frapper notre esprit, notre imagination. Tu ramènes les souffrants, les captifs comme des ruisseaux dans le midi. Un ruisseau qui va couler sur une terre desséchée et qui va l'inonder, qui va l'abreuver, où là la vie va revenir. Il y a de formidables documentaires quelquefois sur... Dans certaines régions du monde, je pense en Afrique, où là, eh bien, après des pluies, où là, tout est en train de mourir, les bêtes, les hommes, les végétaux, sous la chaleur du soleil qui détruit. Et à un moment donné, il y a un orage qui se déclenche, et vous voyez les eaux qui courent, et ça va devenir des fleuves, et il va y avoir une inondation immense. Et avec cette inondation, la vie va revenir. Eh bien, le Seigneur veut nous inonder. Il veut nous inonder de l'intérieur. Vous savez de quoi il veut nous inonder? De ces eaux qui viennent du ciel, de ces eaux impétueuses, c'est la foi. Ouais. Et si nous sommes inondés de foi, vous allez voir que vous allez reverdir, excusez-moi l'expression, que vous allez reprendre vie, que là, il va y avoir quelque chose qui va se faire dans votre existence. Alors, nous voulons le prier, mais des ruisseaux dans le midi. Là, vous vous sentez comme cette pauvre femme qui souffrait depuis tant d'années, 12 ans, nous avons dit. Est-ce qu'elle y croyait encore? Ou je crois qu'elle y croyait encore, puisque quand elle a entendu parler de Jésus, elle est allée vers lui. Et si vous vous entendez parler de Jésus, eh bien vous pouvez aller encore vers lui, par une simple prière, par une simple invocation, par un simple cri, qui peut commencer par un cri de souffrance et de douleur, et qui va finir par des cris d'allégresse et des cris de joie. Comme des ruisseaux dans le midi, pour nous montrer qu'il y a un chemin, qu'il y a un cheminement à travers tout ça, qui certes n'est pas facile, et qui nous prouvera encore qu'il existe un bonheur après le malheur. En ce sens, écoutez bien, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Nous voyons que le poète qui a écrit ce psaume donne l'image de ce qui se passe dans la nature, lorsque le cultivateur, le semeur, deviendra à son terme un moissonneur. Il y a une chronologie dans tout ça. Et je voudrais le rappeler, parce que nous sommes finalement dans cette vie qui est la nôtre, quelque part semblable à cette image. Nous sommes confrontés avec une terre aride, Nous sommes à rentrer dans un champ qui est le champ de notre existence, où nous, souvent, ils nous font enlever les pierres, ils nous font enlever la rocaille, il nous faut retourner la terre, ça c'est le travail laborieux du cultivateur. Il n'est pas cultivateur qui veut, parce que c'est un métier très ingrat. Hein. Lui, il est en train de retourner les sillons, enfin il est en train de retourner la terre pour en faire des sillons. Mais avant que ce soit sillon, il faut retirer les pierres. Si vous êtes promené quelquefois dans la montagne, vous verrez, j'ai toujours été stupéfait de voir le travail qui est fait par les gens de la montagne, par les montagnards, pour avoir un lopin de terre sur le flanc. Vous avez vu tous ces murets de pierres? On se dit, c'est formidable, c'est pour garder les vaches. Tiens, c'était pour enlever les pierres des champs et les mettre en murets tout autour. Parce qu'il fallait bien les mettre quelque part, ces pierres. Et quelquefois, ce sont des murets qui sont assez hauts. Hey, imaginez-vous les heures, les jours, les vies qu'il a fallu pour enlever ces pierres, pour pouvoir ensuite eh bien, préparer, travailler la terre et avoir quelques arts de terrain pour pouvoir nourrir la famille, pouvoir ensemencer. Alors, c'est vrai qu'il y a ce travail laborieux. Et dans nos vies, cette femme avait creusé pendant 12 ans un sillon. Elle se disait, mais est-ce qu'un jour, il va y avoir quelque chose? Mais elle avait semé. Elle avait semé l'espérance. Et la preuve en est, c'est que quand elle a entendu parler de Jésus, elle était prête pour aller voir Jésus. Et d'ailleurs, je crois que, malheureusement, ceux qui ne sont pas prêts, ils en font la démonstration, parce qu'ils sont malheureux, ils sont souvent, quelquefois, dans un état déprimé, découragé, mais ils ont oublié de semer. Ils ont oublié d'enlever quelquefois les pierres qui empêchent la semence de pousser. Et quand on leur parle de Jésus, ils me disent « Non, non, ne me parlez pas de Jésus. Il ne peut rien pour moi. » Ils ont tout dit, hein. Il n'y a rien à faire. Alors, ceux qui sèment avec l'arme, parce que ça, le travail du semeur, eh bien, il est précédé du travail du laboureur. Et puis quand on sème, c'est abandonner ce que l'on a, l'avoir que l'on a en main, c'est-à-dire la graine, l'abandonner à la terre, de dire « Eh bien voilà, moi, je la jette. » Maintenant, elle est... Normalement, elle est perdue. Parce que je ne l'ai plus. Je la jette dans la terre. Elle ne m'appartient pas. Elle appartient à la terre. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait. Que c'est de cette terre même que Dieu, finalement, a donné aux hommes. Eh bien, elle a la possibilité, cette terre, de donner la vie. Au contact, la graine, la semence, au contact de cette terre, elle donne la vie. Alors, c'est vrai que c'est tout un travail. Travail de préparation, travail de répandre la semence. Alors il nous dit que celui qui sème avec l'arbre moissonnera avec chandaleresse. Mais il y a le temps. Le facteur temps dont nous parlions tout à l'heure, le temps de l'épreuve. Et ça, ça tue. Parce qu'il y a tant de pression. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais être guéri? Et vous avez tout un monde autour de vous qui n'est pas là forcément pour vous encourager. Plutôt pour vous décourager. Et pourtant, le temps est nécessaire. Et avec le temps, Dieu va faire son œuvre. Le temps n'est pas notre ennemi, au contraire. Mais nous, avons-nous la patience? Savons-nous attendre le temps nécessaire? Vous savez que c'est un des plus grands trésors que Dieu nous a donné, le temps. Oui. Souvent, les gens se plaignent. Ils murmurent, ils se révoltent en disant « mais c'est pas encore là ». J'entendais le témoignage d'une jeune fille dernièrement, parce qu'elle attendait quelque chose dans la vie matérielle, et elle disait tout simplement « eh bien, j'ai prié mais Dieu ne m'a pas exaucé ». Et deux jours après qu'elle disait ça, l'exaucement est arrivé. Et après, elle a dit tout simplement « j'aurais dû être un peu plus patiente ». Enfin, c'est arrivé quand même. Ouais, parce que Dieu fait grâce, tout simplement. Oui, nous sommes très prompts à critiquer, à juger, hein. Ça c'est sûr. Mais sachons attendre. En silence, comme le dit le livre de Lamentations de Jérémie, le secours de l'Éternel. Et d'autant plus que je serai patient, que j'attendrai avec espérance, d'autant plus la délivrance sera véritablement chargée d'allégresse. Chargée de joie. Celui qui marche en pleurant, imaginez-vous cette femme, je reviens toujours à elle, qui devait marcher en pleurant en disant « mais je ne suis pas bien, je suis toujours fatiguée, Je suis malade. Elle marchait en pleurant, comme bien d'autres encore, comme aujourd'hui la cohorte des pleurants est immense. C'est un véritable océan. Alors, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, alors il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ça, c'est la récompense. De pouvoir, finalement, moissonner et revenir avec les bras chargés de la bénédiction de Dieu et de la grâce du Seigneur. Ça, c'est extraordinaire aussi. Vous avez énormément de textes qui étayent dans l'Évangile ce que nous sommes en train de commenter dans le psaume 126. Oui. Alors, qu'est-ce que nous pourrions recommander? Qu'est-ce que nous pourrions dire de plus? Eh bien, moi, je dirais simplement en conclusion cette parole que nous avons dans Paul, parce qu'elle est très belle, me semble-t-il, est tout à fait appropriée. Écoutez, c'est dans Corinthiens chapitre 4. Écoutez simplement ces mots. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Mais comment me réjouir, Seigneur, quand je souffre, quand je suis malade, quand mon cœur n'y est pas, quand je fais de la mélancolie, lorsque je suis en déprime, lorsque mon regard est un regard noir, pessimiste, lorsque je regarde autour de moi, eh bien tout est sombre, tout est noir. Alors, il y a une injonction dans la parole de Dieu. Il nous est dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors si vous ne pouvez pas vous réjouir tout seul, demandez à Dieu qu'il vous le réjouisse. En tous les cas, lisez sa parole, elle vous réjouira. Venez écouter le message de l'Évangile ou écoutez la prédication de la parole de Dieu. Elle va vous réjouir. Pour la première fois que j'ai entendu l'Évangile, je peux vous dire qu'elle m'a vraiment réjoui. Par la grâce de Dieu, je suis encore ici, je suis encore au milieu de vous. Parce qu'il y avait une joie tellement forte, tellement belle. Ça descendait du ciel, ça venait des cieux. Oui. Quelle joie remplit ma vie, ce petit cœur. Je l'ai toujours encore dans mon, hein, au fond de moi-même. Quelle joie remplit ma vie, par la grâce de mon Dieu. Oui. N'importe où je vais, eh bien, il est avec moi. Et c'est vrai. Et il ne m'a jamais quitté. Et moi, je ne veux pas le quitter. Alors je me réjouis pour cela. Ces joies dont il nous est parlé. Que la joie de l'Éternel soit votre force. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on traverse les difficultés. Et c'est vrai que si nous comptons uniquement sur la joie naturelle, on aura du mal. Mais Dieu est capable de mettre au cœur de nos tempêtes et de nos ouragans, eh bien, de nous réjouir en lui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, nous dit Paul un peu plus loin. Parce que souvent, dans la maladie, dans la souffrance, nous sommes irritables. Nous sommes parfois, eh bien, quelque part, pas toujours de bonne humeur. C'est normal, ça se comprend, c'est tout à fait logique et naturel. Alors, que votre douceur soit connue. Seigneur, donne-moi non seulement de me réjouir, mais d'être doux. C'est dur, hein ? Oui, oui. C'est dur quand on souffre, quand on a mal. Parce que là, c'est un travail sur notre caractère. Au plus profond de nous-mêmes, il nous est dit, le Seigneur est proche. Et bien sûr, je ne te vois pas, Seigneur. Tu es un Dieu invisible, mais je sais que tu es là. Et c'est comme si je te voyais. Je sens ta présence. Même si tu ne dis rien, même si tu ne fais rien, je sais que tu es là. Ne vous inquiétez de rien ensuite. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et vous y veillez avec des actions de grâce. Prière, supplication. Combien cette femme dont nous avons parlé tout à l'heure a dû prier, a dû supplier. Et je crois qu'elle a certainement remercié. Oui, elle a certainement remercié. N'oubliez jamais la reconnaissance. Remerciez avant d'avoir reçu. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans les civilités de la vie normale. Quand on vous promet quelque chose, vous remerciez avant d'avoir eu la chose. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu vas me donner. Et là, vous allez voir que votre foi va décoller. Au lieu de rester dans la négativité en disant, mais Seigneur, tu ne m'as toujours pas donné. Au lieu de dire ça, dites plutôt, je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas me donner. Et vous allez voir, ça va changer les choses. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que dans la tempête, lorsque nous devons traverser toutes ces épreuves et ces afflictions, mais ça souffle de tous les côtés, c'est terrible. Et nous avons cette promesse que cette paix de Dieu, c'est pas la paix des hommes, c'est pas la paix de nos raisonnements, de nos analyses ou de nos déductions, c'est la paix de Dieu. Alors elle gardera cette paix, nos cœurs et nos pensées. Nos cœurs, c'est le siège du sentiment et la pensée, c'est le siège de la réflexion. Alors, tout ça, ça peut être vraiment gardé pour dire, eh bien Seigneur, je ne regarde qu'à toi et à toi seul. Alors, je dirais simplement pour terminer, le Seigneur est capable finalement de changer nos larmes en joie et en allégresse. Et c'est notre bonheur, et je dirais c'est votre bonheur si vous le croyez. Nous allons prier maintenant, simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons qu'en Jésus, nous avons tout pleinement. Tu nous as promis que tu garderais nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Tu les garderas en Jésus-Christ, tu les garderas dans ta parole, tu les garderas dans tes promesses, parce que nous savons que tout cela est recouvert de ton esprit qui agit, Seigneur. Oh, nous voulons te remercier, parce qu'après les temps d'errance, les temps de cheminement dans les larmes, dans les craintes, dans la peur, dans la souffrance, il y a ensuite, Seigneur, eh bien en effet, Père éternel, des temps nouveaux qui viennent. Et c'est sur ces temps-là que nous voulons espérer. C'est derrière ces temps-là que nous voulons vraiment, Père éternel, croire en ta grâce. Oui, Seigneur, tu bénis mes amis. Tu leur fais du bien. Tu connais, Seigneur, en effet, quelles sont les conditions de leur existence et de leur vie. Peut-être que pour certains, la vie se retire peu à peu. Jour après jour, mois après mois, année après année. Ils perdent leur substance même de ce qui les fait vivre. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, en effet, ils ont entendu parler de toi maintenant. Ils ont entendu parler de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, de ton salut. Alors fais-leur du bien. Au nom de Jésus, je te le demande. Et nous te remercions parce que tu nous réjouis profondément que si nous marchons en pleurant, eh bien nous reviendrons avec des chants d'allégresse. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Tu sauves mes amis, Seigneur. Tu leur fais du bien, Seigneur. Tu leur donnes de comprendre que parfois, eh bien, tu viens nous chercher là où nous sommes le plus touchement, le plus durement touché, Seigneur. Et tu veux véritablement, eh bien, nous montrer qu'à travers, Seigneur, nos difficultés existentielles, à travers tout ce qui nous fait pleurer, eh bien, tu n'es pas contre nous, tu es auprès de nous, dans la mesure, Seigneur, où véritablement, eh bien, nous tournons nos regards vers toi et que nous espérons, Seigneur, en ton secours. Merci, Seigneur. Merci Jésus, parce que nous croyons que, en effet, Père éternel, tu nous sensibilises eh bien, à la guérison. Tu nous sensibilises à la délivrance. Tu nous sensibilises à la libération pour nous amener, Seigneur, à quelque chose encore de plus grand, qui est le salut de nos âmes. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.